éclats de lire.
Petits éclats de lire.
Petits éclats de lire, une émission de l'association Éclats de lire et Fréquence Mistral pour partager nos coups de cœur parmi quelques parutions jeunesse. Avec aujourd'hui Michel.
Bonjour à tous.
Jeanne.
Bonjour.
Daniel.
Bonjour.
Marisa.
Et Laetitia.
Une histoire d'amour. Une histoire d'amour.
Une histoire d'amour. Un album de Gige Bachelet chez Seuil Jeunesse à partir de 3-4 ans.
S'il y a des glouglous comme ça dans le micro, c'est parce que cette histoire se passe dans un évier. Oui, une histoire d'amour dans un évier. Et à la première page du livre, vous avez une dédicace à messieurs Robert Marais et Jean Paturel, fondateurs de la maison Mappa, gants pour le ménage et le bricolage. Et effectivement, cette histoire se passe entre deux gants, un bleu et un rose.
C'est un jaune et un rose.
Georges était maître nageur.
Josette pratiquait la natation synchronisée. Alors Josette et le gant rose, avec son petit chapeau à fleurs, et Georges.
Et Georges et le gant jaune. Il a avec lui sa serviette, son sifflet. Et donc, ils se rencontrèrent un jour, c'était fatal, à la piscine.
À la piscine ?
Ce fut le coup de foudre. Et oui, à la piscine, parce que la piscine, eh ben justement, la piscine, c'est l'évier, il y a le robinet qui coule au-dessus. Pourrais-je vous revoir, bafouillé à Georges ? Que diriez-vous d'un pique-nique à la campagne ?
Mais nous nous connaissons à peine, bredouilla Josette.
Et elle accepta. Ils passèrent une journée merveilleuse. Georges joua jeux interdits à la guitare, avec quelques fausses notes que Josette ne sembla pas remarquer.
Mais elle a une drôle de tête, sa guitare.
Eh oui, c'est une passette à thé. Et de la même façon, ce jour-là, le chapeau de Josette est un volant de badminton. Et tous les accessoires de ce livre sont des accessoires déplacés et qui nous font bien rire.
Par exemple, eh bien, justement, le soir, ils allaient à la fête foraine. « J'ai la tête qui tourne », dit Josette. « Eh bien, justement, le manège, c'est un moulin à légumes. »«
Moulinex, de l'ancien temps. » »«
Puis au bal, c'était un 14 juillet. »«
J'ai la tête qui tourne », dit Josette.
« J'ai très envie de vous embrasser », murmura Georges.
« J'ai la tête qui tourne », répondit Josette, mais elle l'embrassa.
Un peu plus tard, ils se marièrent et partirent en voyage de noces.
Au retour, ils se procurèrent quelques meubles et installèrent leur petit nid d'amour.
Et ainsi va la vie, c'est ça ?
Et ainsi va la vie. Justement, la vie coulait paisiblement lorsqu'un jour...
Et si nous avions des enfants ? Demanda Josette.
Des enfants, répondit Georges, mais nous avons déjà un chien.
Oh, c'est pas pareil, dit Josette. Les enfants, ça donne un sens à la vie.
Et ils eurent d'abord une petite fille.
Comment va-t-on l'appeler ? Demanda Josette.
Pourquoi pas Martha, comme ma grand-mère, proposa Georges.
Et pourquoi pas Clémentine, comme la mienne ? Répliqua Josette.
Ils se mirent finalement d'accord pour Martine.
Et la vie a continué. Vient ensuite Hippolyte, Bernadette,
puis Jocelyne et enfin Gérard. Les saisons passèrent avec leur cortège de scarlatine et la vie continua. Les rougeoles, les coqueluches, etc. Toutes les choses bonnes et les choses un peu moins agréables de toute la vie. Les enfants grandirent,
se marièrent et partirent de la maison. Georges et Josette vécurent encore très longtemps dans la grande maison redevenue bien calme.
Georges mourut et Jocelyne se retrouva seule.
Enfin, pas tout à fait seule.
Car chaque année, le jour du 14 juillet, Josette réunit tous ses petits-enfants. Elle leur raconte sa première sortie avec Georges. Elle raconte le pique-nique, la fête foraine, le bal, le premier baiser sous les feux d'artifice. Et chaque année, invariablement, elle achève ainsi son histoire, vous savez. Il faisait beaucoup de fausses notes. Et je n'aimais pas trop aux jeux interdits, mais jamais, jamais je ne le lui ai dit.
Voilà, nous avons, je crois, beaucoup aimé ce livre qui est très réjouissant et qui traduit si bien la vie.
De plus, on pourrait dire que souvent on met en scène des animaux pour expliquer le comportement des humains. Et ici, avoir fait vivre des objets qui n'avaient pas d'yeux, pas de bouche, c'est quand même vraiment une performance.
Il faut dire que Gilles Bachelet est un auteur-illustrateur très connu dans le monde de la littérature jeunesse. Il fait des livres depuis près de 40 ans qui sont toujours très très décalés et très loufoques, notamment le célèbre chat, Les aventures d'un chat éléphantesque ou le contraire, on ne sait pas trop, avec le chat le plus bête du monde, les nouvelles de mon chat. Enfin, Gilles Bachelet nous réjouit depuis très longtemps.
Avec son sens décalé qui est vraiment très très drôle.
Oui, et tous les objets finalement sont déroutés de leur utilisation normale, d'une façon très cocasse. Dans la cuisine où se passe toute la famille, la vie de famille.
Et je crois qu'on peut dire en plus qu'un livre de Gilles Bachelet, quand on en a lu un, on reconnaît très bien les autres. C'est un illustrateur qui est très particulier et qu'on remarque forcément.
Et quand on les remarque, on a très envie de les lire.
Voilà, Gilles Bachelet, une histoire d'amour chez Seuil Jeunesse à partir de 3-4 ans.
La Mésaventure.
La Mésaventure, un album de Iwona Chmielewska aux éditions Format à partir de 4 ans.
Alors, cette Mésaventure, contrairement au livre dont on vient de parler, a une couverture qui est extrêmement sobre. Il y a sur cette couverture une marque jaunâtre dont on ne comprend pas très bien la forme. C'est un peu pointu en haut, un peu renflé sur les bords, un peu plat sur le fond. C'est jaunâtre sur un fond grisé. Et quand on passe la main sur la couverture, c'est en creux. Alors qu'est-ce que c'est que cette forme bizarre ?
Je crois que, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille.
C'est ça, une jeune fille qui s'est lancée dans un repassage pendant que sa maman s'est absentée. Elle a décidé de repasser le linge.
Elle a décidé de repasser pas n'importe quel linge. Elle a décidé de repasser la nappe préférée de sa maman, qui est un souvenir précieux brodé par sa grand-mère.
Et oui, donc c'est très précieux. Et voilà, elle commence à repasser et, catastrophe, le fer était-il trop chaud ? Sur la nappe, une marque jaune. La jeune fille se demande comment faire pour la faire disparaître. Alors elle va inventer des stratagèmes pour qu'on ne s'aperçoive pas de sa mésaventure. Elle va penser, par exemple, à accuser son petit frère. Elle va penser aussi à essayer de laver la tache. Elle va penser aussi à accuser son grand-père qui fume la pipe. Mais bon, tout ça ne fait pas disparaître la tâche. Et
que va dire maman à son retour ?
Et maman arrive, précisément. Et que va-t-elle dire quand elle va voir la tâche ?
On va pas vous raconter la suite, quand même.
Eh ben non. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de l'illustration, parce que c'est assez particulier dans ce livre. On sent très bien qu'il y a une inquiétude chez cet enfant. Et pour raconter cette inquiétude, la tâche est présente à chaque page. Elle est présente sur le côté droit du livre, de l'histoire. Et sur le côté gauche, sur une page presque blanche, en bas, il y a juste un petit texte qui explique ce qui se passe dans la tête de la jeune fille. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre sur la transmission, puisqu'il est question justement de cette grand-mère qui a brodé cette nappe. Puis aussi un livre sur la peur qu'on peut avoir quand on a fait une bêtise. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va être grondé ? Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Comment réparer ? Et voilà.
Un livre sur la culpabilité.
Oui.
Oui. Oui.
Mais
oui.
Très, très délicat, très intelligent, très finement mené. C'est très sobre. On s'y retrouve beaucoup. Moi, j'ai retrouvé, du coup, parce que je trouvais ça tellement particulier, cette histoire de tissu brûlé, j'ai retrouvé une petite interview de Iwona Chmielewska, donc, qui est l'auteur et l'illustratrice de ce livre. Et la journaliste l'interroge sur ses illustrations et elle dit « Dans vos illustrations, le fil, le textile, les rubans, la broderie reviennent souvent comme un lien entre le monde de l'enfance et celui des adultes. Que pourriez-vous dire de ce travail à l'aiguille ?» Et Iwona répond « Pour le dire brièvement, je cherche à établir des relations, à recoudre, à lier avec des fils invisibles les phénomènes qui sont parfois impossibles à assembler. » Il est facile, je pense, d'enseigner, d'enchanter ou de faire peur dans les livres. Ce qui est plus difficile, c'est d'établir une relation avec le lecteur, lui permettre de se sentir sujet de l'histoire et de lire cette dernière à sa guise, de se regarder dans le livre comme dans un miroir. Une aiguille, un fil et la couture, c'est une belle métaphore de la vie. J'ai beaucoup de respect pour le travail des mains humaines. J'adore les tissus, j'aime les regarder, les toucher, les lisser, les associer, observer le pli d'un vêtement à la flexion du coude ou du genou. Je travaille actuellement sur un livre dédié à ma grand-mère tisseuse. Comme elle, je crée mes livres en construisant une chaîne et une trame. Les mots et les images s'entrelacent comme des fils et deviennent inséparables. Voilà, je trouvais ça très joli.
C'est un très beau texte.
Voilà. Donc, c'est La Mésaventure, un album de Iwona Chmielewska aux éditions Format, à partir de 3-4 ans.
Alors, je voulais juste rajouter que Iwona Chmielewska est polonaise, qu'on a rarement des livres qui nous viennent de Pologne, des livres, des albums pour enfants, que la Pologne, un temps, a beaucoup produit des affiches qui étaient splendides. Et bien voilà, on espère retrouver cette splendeur avec des albums pour enfants.
D'ours.
L'ours. Chez Didier Jeunesse, à partir de 2 ans. C'est un livre écrit par José Alonso et illustré par Lucia Cobo.
Tout de suite, je vais vous dire que c'est un livre magnifique. Je vais d'abord préciser la dédicace. Alors, Lucia a dit « À mes parents qui ont cru en moi et en mon rêve ». Et un petit peu plus bas, on nous dit « Lucia Cobo a d'abord suivi des études d'ingénieur avant de se consacrer à sa passion, illustrer les émotions ». Et puis, la dédicace de José Ramón à Carmina, qui nous a donné vie et amour. Et un petit peu plus bas, José Ramón Alonso, écrivain et biologiste, raconte dans un style épuré et poétique le cycle de la vie et de la nature. Donc tout ce qu'on dit dans l'ours, tout est vrai, vous allez voir. D'abord, la page de garde nous montre les pas imprimés dans la neige, sans doute, ou dans le gel, les pas de l'ours. Et on nous dit « l'automne est arrivé ». Et on a là, sur la page de droite, le quart du museau de l'ours, dessiné sans doute avec du pastel et des crayons pastel de façon très fine et très présente. On voit que cet ours est bien dans la vie. L'ours s'enfonce dans la forêt. Elle est seule, elle cherche. Elle dévore les derniers fruits de l'été. Des petites graines s'accrochent à sa fourrure. L'air est de plus en plus froid. Les jours sont de plus en plus courts. L'ours creuse un trou au pied d'un grand rocher. Bientôt, la neige recouvre le ciel et la terre. L'ours dort tout l'hiver, dans un paysage de neige où on aperçoit seulement l'entrée de la grotte de l'ours. Et puis un matin, la lumière inonde son abri. Elle sent que son ventre s'agite, mais ce n'est pas la fin. Et on a le rayon de soleil qui vient juste se poser sur le ventre de l'ours, où devant, il y a un petit arbre tout nouveau du printemps avec quelques feuilles vertes. La voilà qui sort, s'étire. Le soleil lui donne sa première caresse. Dans son ventre, c'est comme un coup de poing. Et là, on tombe sur une double page absolument magnifique de bébé ours sur le ventre de maman ours. Tous les deux s'échangent un regard plein de tendresse et plein d'amour. C'est vraiment une très très belle page. Un nouveau printemps est là et on voit maman ours et bébé ours qui s'en vont. Et on arrive à la deuxième page de garde et là il y a les pattes de maman ours et à côté les pattes de bébé ours. Voilà, je trouve que c'est un très joli livre peut-être à offrir au moment d'une naissance. C'est magiquement dessiné et il y a l'émotion de cette maman ours au départ. Ensuite, quand elle est dans sa grotte, et puis à l'arrivée du bébé, qui est magnifique.
Oui, c'est d'une très grande tendresse et sensibilité. Alors, c'était L'ours, avec un E, chez Didier Jeunesse, de José Ramón Alonso et Lucia Cobo.
Fourmi.
Fourmi. Un album de Cyril Houplin chez Milan, un très grand album un peu fou et atypique, un album réalisé par un artiste, un peu un livre d'artiste, mais qui s'adresse à tous, aux plus jeunes et aux adultes. C'est un pari un peu fou que Cyril Houplin a pris. Il raconte les aventures d'un jeune londonien dans les années 1860.
Alexander Burke.
Voilà, de son nom d'origine, qui deviendra le nom et le titre du livre, qui deviendra Fourmi ensuite, après avoir traversé l'océan pour découvrir l'Amérique. Et on va suivre les aventures de ce petit jeune homme qui, gagner sa vie, va se mettre à dresser des fourmis. Alors, je vous raconte pas toute l'aventure parce que les aventures sont longues et rebondissantes. Mais ce qui est très très caractéristique de ce livre, c'est que l'auteur, Cyril Houplin, a dessiné tout en fourmis. C'est-à-dire que toutes les images sont dessinées par des dizaines, centaines, milliers de petites fourmis qui dessinent des visages, un bateau, une arête de poisson, un avion, un chapeau haute forme.
Une ville.
Il les a toutes dessinées une par une à la main, à l'encre de Chine sur du papier blanc. Et le résultat est assez extraordinaire.
Ah oui, c'est noir et blanc. Et des milliers de fourmis qui dessinent la vie de ce garçon, qui dessinent ses aventures et qui dessinent ce qu'il va devenir.
Il a mis 4 ans à réaliser ce livre.
Oui, il a mis 4 ans et sans doute des milliers de nuits blanches parce qu'il faut une patience incroyable. C'est vraiment du travail d'orfèvre, quoi, un boulot un peu de dingue.
Et des yeux.
Ah oui, des bons yeux.
Oui, parce que c'est uniquement les fourmis qui font le dessin.
Oui, qui font la forme.
Oui. Qui font les formes, oui, les formes, exactement.
Il y a des portraits en fourmis, il y a des bateaux en fourmis, il y a des maisons en fourmis, des rues en fourmis.
C'est assez extraordinaire. Ouais. Alors, c'est en noir et blanc, sauf qu'à la page 36, apparaît une petite reine, Pépite, la fourmi rouge. C'est elle qui va créer un peu le suspense et qui va laisser son empreinte sur toutes les pages. Ça permet aussi aux plus jeunes, pour qui l'histoire peut être un peu complexe, de jouer. C'est un peu Où est Charlie, là. C'est un peu...
un peu la recherche de la fourmi rouge.
Où est Pépite? Disons que ça s'adresse vraiment à tous, parce que les petits peuvent s'amuser à trouver des fourmis, à trouver des détails, à trouver Pépite. Les plus grands peuvent s'intéresser en même temps à l'histoire. Et les adultes, je pense, seront un peu époustouflés par la qualité artistique du livre. Voilà, donc c'est Fourmi, I, qui se termine par un I tout seul, de Cyril Houplin aux éditions Milan. Et de 7 à 77 ans.
Oh oui, c'est un livre pour tout le monde.
Pleine neige.
Voilà, Pleine neige, présenté par Jeanne. Un album d'Antoine Guillopé, qu'on connaît bien à Manos, qu'on a reçu plusieurs fois et qui a déjà fait paraître de très beaux livres chez Gauthier Langros.
De beaux livres, oui, effectivement, avec un petit peu ce style d'image, mais quand même pas complètement. Ici, La couverture nous montre un gros tigre. Puis dès qu'on ouvre les deux, la double page de la page de garde, on se trouve dans un paysage d'un calme terrible avec la neige qui tombe, les montagnes et vraisemblablement un grand lac. La page suivante nous montre encore toutes les montagnes, la neige, avec juste une phrase. « La nuit arrive doucement », dit maman. Juste la seule chose vivante, c'est l'aigle qui est dans le ciel. Et cet aigle, justement, on le retrouve après dans une image toute en dentelle ciselée, en contre-plongée, si on peut dire, avec tous les troncs d'arbres et au fond, le fond du ciel où apparaît l'aigle en plein milieu. Il y a les traces des petits lapins qui sont tout autour des arbres. Donc ça a l'air silencieux, tranquille, mais à la page suivante, on voit la silhouette d'un loup. On dirait vraiment un loup parmi toutes les petites traces des pas des animaux. Page suivante, les flocons commencent à tomber. Le silence se fait. Effectivement, la page est noire, c'est-à-dire que la nuit commence à tomber sérieusement. Et la neige aussi. Et voici qu'apparaît des bêtes fantastiques un peu. Il y a le tigre, il y a les troncs d'arbres qui sont très épais et qui cachent la forêt et tout cela dans un silence remarquable. Et puis il y a encore de la dentelle, la petite hermine apparaît. Elle est si blanche qu'elle se confond avec les branches gelées. Puis encore d'autres animaux qui arrivent, en particulier la chouette, qui va peut-être manger l'hermine, mais non, pas du tout. Cette petite proie n'aurait pas dû passer par là, mais l'hermine se sauve, elle ne sera pas du tout attaquée. Puis arrive un bison, et on voit le loup, la silhouette du loup qu'il observe au loin. Juste la silhouette, encore un animal fantastique, l'élan. Puis en grand la silhouette du loup, inquiétante alors que tout était si calme, si paisible, si blanc. Et on dirait qu'on voit une tente derrière, un tipi plus exactement. Il s'approche du tipi à pas lents. Est-ce un loup aux grandes dents? Et voici la conclusion qui est très étonnante. Il y a le papa qui est recouvert parce qu'il a froid d'une peau de loup et qui vient apporter du bois. Il était allé chercher du bois pour nous protéger du froid. Nous serons bien au chaud cette nuit. Dormez bien, mes tout petits. Il y a la maman qui est assise, qui tient son bébé dans les bras. Il y a l'enfant à côté. Il y a le feu, la seule chose rouge qui soit de cette couleur-là dans l'album, qui se termine très paisiblement avec la nuit tombée, les arbres, le petit tipi avec le nuage de fumée qui en sort et une petite hermine qui devait encore passer par là. C'est un livre qui est remarquable avant tout par ses images en dentelle qui sont là vraiment pour traduire et illustrer l'immensité blanche de la forêt, à la fois très inquiétante avec la nuit qui tombe, mais rassurante aussi, malgré la présence d'animaux étranges. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des animaux étranges. Souvent, quand la nuit tombe, on voit tellement de monstres bizarres. Et c'est cette immensité calme, cette neige apaisante, qui l'emporte sur l'inquiétude, ainsi que le dénouement inattendu. En fait, c'est avant tout un livre d'art. Les images qui sont ciselées comme cela deviennent vraiment des tableaux en trois dimensions quand on tourne les pages. Et alors donc, on peut le proposer à tous les âges, de 1 à 100 ans. 100 ans ou 120 ? Voilà.
140. Oh, c'est la grande spécialité d'Antoine Guillopé, ces livres
vraiment
en noir et blanc ou en bleu et blanc, avec des découpes au laser très très fines. Et ça plaît vraiment beaucoup aux enfants.
Dans une précédente fête du livre, on avait présenté Pleine Lune et Plein Soleil. Et c'était les premiers qu'on avait rencontrés, on avait trouvé ça vraiment extraordinaire.
Oui.
En fait, on a plein de livres extraordinaires, là.
C'est nos coups de cœur extraordinaires.
Voilà.
Bob et Marley, les vedettes.
Bob et Marley, les vedettes. De Marée et de Dieu, chez Seuil Jeunesse, à partir de 2 ans. Bob et Marley, c'est deux ours assez mal dégrossis, très farceurs, très attachants, qui font partie d'une série de petits albums carrés chez Seuil Jeunesse. Alors, il y a Bob et Marley, le cadeau, Bob et Marley, les ricochets, Bob et Marley, la maison, le monstre, etc. Et le dernier, c'est Bob et Marley, les vedettes. On va vous en lire un petit peu parce qu'il est facile à lire à la radio et il est très drôle. Tu viens, Bob ? C'est par là, Bob. Oh, regarde, Bob ! T'as vu, Bob ? C'est beau, hein, Bob ?
Arrête, Marley. Arrête avec tous ces Bobs.
Bah pourquoi, Bob ? Tu t'appelles bien, Bob, hein ? Hein, Bob ? Mais si je peux plus t'appeler Bob, alors comment je t'appelle, Bob ? Bon, d'accord, Bob. Si tu veux, j'arrête de t'appeler Bob. Dommage, moi j'aimais bien Bob. Je m'étais bien habituée à Bob. En plus, c'est facile à écrire et ça se lit dans les deux sens. Bob, Bob.
J'en peux plus. J'en ai marre. Je veux changer de nom.
Mais Bob, si tu changes de nom, on se verra plus. Penche-toi, Bob. Regarde le titre du livre et dis-moi comment s'appellent les deux vedettes. Alors là, on voit Marley tourner, virer le livre et la couverture du livre qu'on est en train de vous lire.
Bob et Marley. Marley, c'est écrit gros même.
Si tu changes de nom, il n'y aura plus de livres, plus d'aventures, plus de vedettes, plus de Bob et Marley. On sera séparés et sûrement placés dans des livres d'accueil avec des princesses et des poneys.
Ah non, pas des poneys.
J'ai une idée. Si tu veux, on peut échanger nos noms. Tu peux t'appeler Marley, moi je vais m'appeler Bob. Comme ça, on reste des vedettes. Vas-y, essaye pour voir. Appelle-moi Bob.
Jamais, Marley. Bob, c'est moi.
Voilà, c'est un petit album qui nous a fait beaucoup, beaucoup rire. Et c'est un humour que les enfants comprennent très rapidement. C'est tendre, c'est léger, c'est facile. Ouais. Nous, on a lu ça entre adultes, on était morts de rire. Donc, je pense que ça
oui,
devrait...
Que ça, les enfants riront aussi.
Voilà. Ouais. De Dieu qui illustre les Bob et Marley, c'est un auteur-illustrateur très prolifique. Hein. Il fait paraître presque 20 titres par an.
Alors, mais lui, à l'inverse de Bachelet, on le reconnaît pas toujours, non, parce qu'il est très différent dans ses illustrations et on ne peut pas forcément dire que c'est de Dieu.
Ah non, absolument, il essaye toutes les techniques, il s'adresse aux tout petits jusqu'aux adultes. Le dernier livre qu'on avait présenté ici, c'était Un caillou. Le caillou, c'était un livre très dur, un album très engagé. On avait beaucoup discuté à l'idée de le sélectionner, qui s'adresse vraiment aux plus grands. Voilà, c'est quelqu'un d'assez étonnant. Marais, on le connaît moins, mais il est aussi auteur-illustrateur. Il a fait tous les Bob et Marley, mais il a fait aussi d'autres très bons livres jeunesse. Je crois que c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous récapituler les livres choisis. Une histoire d'amour de Gilles Bachelet, c'est Seuil Jeunesse à partir de 3-4 ans. La Mésaventure, un album de Iwona Chmielewska aux éditions Format à partir de 4 ans. L'Ours, chez Didier Jeunesse, un album de José Ramón Alonso et Lucia Cobo à partir de 2 ans.
Dès la naissance.
Ah pardon, dès la naissance, oui c'est vrai, absolument. Fourmi, de Cyril Houplin chez Milan, de 7 à 77 ans ou de 0 à 120 ans. Pleine Neige, d'Antoine Guillopé chez Gauthier Langros, pareil, à partir de quand on a les yeux ouverts et après. Et ensuite, Bob et Marley, les vedettes et toute la série des Bob et Marley en général, à partir de 2 ans.
Et qui font rire aussi les parents.
Voilà, ces livres ont été sélectionnés lors du comité de lecture jeunesse qui se tient tous les premiers mardis du mois au Centre culturel et littéraire Jean Giono ou à la librairie Poivre d'Âne. C'est un comité ouvert à tous, je dis ça pour tous les auditeurs, qui n'est pas réservé aux spécialistes des albums jeunesse, ni aux enseignants, mais à tous les parents, à toutes les personnes qui aiment les livres et qui s'intéressent à l'actualité des albums jeunesse. Le prochain comité de lecture aura lieu le mardi 9 janvier au Centre Jean Giono. Vous pouvez trouver toutes les dates...
À 18h30.
Oh pardon, oui, bien sûr, à 18h30. Tous les comités de lecture le premier mardi du mois à 18h30 au Centre Jean Giono ou à la librairie Poivre d'Âne, le prochain le 9 janvier au Centre Jean Giono. Vous retrouverez toutes ces dates, ces horaires, ces lieux sur le site de l'association Éclat de Lire, éclatdelire.eu. Merci beaucoup tout le monde.
Et je voudrais juste rajouter que comme on est près de Noël, eh bien je vous engage à offrir les livres que nous vous avons présentés pour un cadeau de Noël.
Voilà, merci, au revoir Daniel, au revoir Marisa, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.